Je les trouve vraiment atterrants. Hein. Ils rebalancent des idées qui sont depuis plus de 10 ans mis en avant par des gens qui ont pris des risques et qui sont un peu mouillés avant tout le monde. Là, ils arrivent, là, ça y est, salut, on est des atterrés qui se prennent. On n'a pas besoin d'eux pour changer le monde. Voilà, c'est dit, merci.
C'est dit, merci, en tout cas. Le débat est ouvert, le débat est ouvert. L'émission d'hier avec les économistes atterrés vous a passionné. Comme tout ce qui concerne actuellement l'économie politique, vous vous intéressez, vous passionnez à tout ça, et c'est bien. On essaiera de vous représenter d'autres émissions, d'autres sujets là-dessus. Je voulais d'abord vous remercier les 82 000 nouveaux auditeurs qui nous ont rejoints. Là-bas, si j'y suis, bat un record historique d'audience à nouveau pour les deux derniers mois de 2011. Voilà, vous êtes 610 000 à écouter cette émission chaque jour, ce qui est sans précédent, tout simplement. Absolument. Alors ça, c'est des sondages, c'est médiamétrie, c'est l'instrument de mesure qui mesure la quantité, ça ne veut pas du tout dire la qualité. Pour tout dire, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, puisque tout le monde se base et se fixe sur ce chiffre, puisque malgré nous, nous sommes embrigadés dans l'église de chiffrologie, je vous transmets ces chiffres. Aujourd'hui, on va retrouver l'équipe du Monde Diplomatique autour du numéro de janvier. Mais auparavant, je voudrais vous conseiller amicalement d'aller voir une superbe exposition à Paris, au musée Carnavalet, sur Paris, sur le peuple de Paris au 19e siècle. Je me suis régalé à voir parcourir cette exposition. Il y a pas mal de monde. Essayez d'y aller peut-être un matin, en semaine, si vous pouvez. Mais c'est absolument formidable de voir ce que fut Paris au 19e et le peuple de Paris au 19e siècle, et spécialement tout ce qui est consacré à l'indigence, à la pauvreté, aux difficultés de vivre dans cette capitale au 19e siècle. C'est très très édifiant de voir que tout ce qui a été obtenu en matière sociale, de protection, de santé, d'éducation, c'est le fruit des luttes et des combats de nos arrière-grands-parents. Rien n'a été donné, tout a été obtenu par la bagarre, par les barricades, par les poings et les coups, et les idées, bien sûr, et l'organisation. C'est une belle, très très belle exposition, donc au Musée Carnavalet à Paris. Aujourd'hui, donc, le diplôme du mois de janvier, avec Maurice Lemoine qui va nous parler de l'international-socialiste en Amérique latine. Sylvie Laurent va nous parler de la country music aux États-Unis. Pierre Daume va nous parler de ce qui s'est passé le 5 juillet 1962 à Oran, très souvent, lorsque nous évoquons le 17 octobre 61. Vous nous dites, oh oui, mais là, attendez, vous parlez jamais de ce qui s'est passé, des massacres du 5 juillet 62 à Oran. Voilà, on va en parler aujourd'hui. François Pradal va nous parler de l'Égypte, de la situation actuelle en Égypte, et notamment à Suez, et notamment des salafistes qui ont remporté les élections avec 51% à Suez. Et puis Franck Poupeau évoquera Pierre Bourdieu, un gros bouquin de conférences, de cours de Pierre Bourdieu, publié ces jours-ci, intitulé « L'État ». Et puis, vous le savez, c'est le 10e anniversaire de la mort de Pierre Bourdieu. Voilà les sujets du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Maïka de Bruxelles. Zine TV, un collectif de cinéastes et citoyens engagés, vous propose la tournée du film Grand Puits et Petite Victoire en Belgique. Le réalisateur Olivier Azam sera accompagné de grévistes de la raffinerie présents dans le film. Nous serons le mardi 17 janvier à Liège, le 18 janvier à Charleroi, le 19 à La Louvière et le 20 janvier à Bruxelles. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.zintv.org. Les projections seront l'occasion d'une rencontre avec les travailleurs belges qui ont bloqué l'approvisionnement d'essence vers la France par solidarité avec les grévistes français. C'est maintenant au tour des Belges de subir une réforme des retraites injuste et brutale. La lutte continue.
Salut, donc création d'un café repère à Vesoul ce soir. Donc c'est la première. Donc dans un café qui s'appelle le Shadow, boulevard des Alliés. C'est juste à côté d'un magasin bio. Venez nombreux, c'est une première rencontre. On va sûrement évoquer la dette et puis on pourra discuter. À bientôt.
Bonjour Daniel, le collectif d'usagers contribuables pour le rétablissement de notre ligne de bus sur le quartier Gasseras, la Bastille-le-Pouty, à Montauban, dans le Tarn-Garonne, vous attend ce mercredi 18 janvier à partir de 16h30 sur le parking de la salle des fêtes de Gasseras. Nous vous attendons nombreux afin de montrer notre mécontentement face au système libellule mis en place. Alors venez nous rejoindre le plus nombreux possible pour donner votre point de vue et vos idées. À mercredi.
Bonjour. Ce lundi, Nicolas Sarkozy a été décoré de l'ordre de la Toison d'Or lors de son voyage en Espagne. Alors quand j'ai entendu ça, une image m'est venue directement à l'esprit, c'était celle de Louis de Funès dans un de ses films où il jouait le rôle d'un grand d'Espagne qui lui aussi était décoré de cet ordre de la Toison d'Or. Je me suis rappelé que dans le film, il y avait Montand, il y avait Saprich, qui atteignait l'orgasme en se faisant lécher la main par un espèce de gros chien aussi, voilà. Et de Funès, il portait cette espèce de grand collier très 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 en or, avec une sorte de mouton qui pendouillait lamentablement au bout du collier, lui aussi ce mouton très 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 en or. Et de Funès, il jouait le rôle d'un harpagon espagnol, un petit bonhomme agacé, pingre, rempli de tics. Et enfin, je me suis rappelé du titre de ce film. Ça s'appelait La folie des grandeurs. Étonnant, non? Voilà, c'était Cyril à Tulle. Salut à tous.
C'est l'or.
Nicolas Sarkozy et Mariano Rajoy sur la même longueur d'onde face aux difficultés économiques. À l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre espagnol, le président français a martelé ses objectifs, réduire les déficits et favoriser la compétitivité.
Il est l'or. L'or de se réveiller.
Ce ne sont pas les agences de notation qui doivent définir les politiques économiques des pays respectifs.
C'est l'or.
Trop de déficit, trop de dépenses, pas assez de croissance.
Il en manque une.
Vous êtes sort?
Tout à fait sort.
Ah ben ça alors?
Regardez sous le lit.
Par ailleurs, à l'occasion de sa visite en Espagne, Nicolas Sarkozy a été fait chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, la plus ancienne et la plus prestigieuse distinction espagnole.
Don Salus, vous n'êtes plus digne de demeurer notre compagnon. Ainsi que la reine vous l'a signifié, nous vous retirons votre titre de chevalier de la Toison d'Or.
Il est l'or, l'or de se réveiller.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec le monde diplomatique, pas si diplomatique que ça.
Flight number 2, arriving from New York.
Voilà, on est avec le monde diplomatique de ce mois de janvier, et on va tout de suite commencer avec Maurice Lemoine. Maurice Lemoine nous apprend que Ben Ali, Hosni Moubarak, Laurent Gbagbo et Georges Papandréou ont quelque chose en commun, ils appartiennent tous à l'international socialiste. C'est une chose qu'on oublie un peu facilement. Et là, vous vous êtes penché, mon cher Maurice, sur cet international socialiste, mais vu du terrain que vous connaissez pas mal, finalement, avec le temps, c'est l'Amérique latine. Et cet international socialiste, vous la voyez comme une bande de pieds nickelés. Carrément. Donc on n'a peut-être pas besoin de lire le papier parce qu'on voit d'emblée, d'après le titre, ce dont il retourne.
Oui, la question c'était d'essayer de comprendre pourquoi manifestement les socialistes, en particulier chez nous, en Europe ou en France, ne comprennent strictement rien à ce qui se passe en Amérique latine. Non, on se rend compte qu'il y a toujours eu un décalage. Par exemple, le Parti socialiste chilien qui a été fondé en 1933 par Salvador Allende n'a pas adhéré à l'International socialiste. À l'époque, il critiquait ses positions conformistes au sein du système démocratique bourgeois capitaliste. Bon. En même temps, parlons pas de la période de la guerre froide. L'International socialiste a toujours considéré que l'Amérique latine appartenait aux États-Unis. C'était l'arrière-cour, on n'y touchait pas. Et puis il y a eu, cela étant, peut-être une période bénie, qui est partie d'un drame, qui est le renversement de Salvador Allende au Chili en 1973, où là, d'un seul coup, il y a une espèce de solidarité émotionnelle. En fait, pour les socialistes européens, c'est un peu comme la guerre d'Espagne. Et donc, les socialistes vont s'intéresser à l'Amérique latine. Et puis, en particulier, il va y avoir la période des dictatures en Amérique latine. Et là, on va avoir toute une génération de dirigeants sociaux-démocrates européens, Willy Brandt, Olof Palme, François Mitterrand, Bruno Kreisky en Autriche, Mario Suarez, Felipe González, qui vont prendre leur distance avec les États-Unis, et y compris qui vont se rapprocher d'un certain nombre de partis politiques en Amérique latine. Et ça va donner lieu en 1980 à la création de ce qu'on appelle le CICLAC, c'est la conférence régionale de l'International socialiste. Et les Européens, y compris, vont se mouiller, puisque vous vous souvenez comme moi qu'en 81, le gouvernement français, François Mitterrand, reconnaît l'opposition salvadorienne, en particulier la guérilla salvadorienne, ce qui crée une grosse différence avec, évidemment, avec Reagan, hein, la politique américaine. Alors c'est pas tellement d'ailleurs à quelle époque les socialistes étaient révolutionnaires, c'était surtout pour éviter que cette partie du monde tombe entre les mains des communistes. Donc on prenait plutôt la négociation que le règlement militaire des conflits armés. En même temps, quand on regarde bien, dès cette époque, il y avait des clivages au sein de l'International socialiste, en particulier au sein des partis latinos qui ont rejoint l'International socialiste. Vous aviez par exemple le Parti Action démocratique au Venezuela, le Parti de la Libération nationale au Costa Rica, le PRD en République dominicaine, qui était beaucoup plus à droite que l'International socialiste. En fait, ils s'étaient rapprochés des socialistes européens. D'abord parce qu'ils étaient en lutte contre les dictatures pour un certain nombre de pays, et parce qu'ils espéraient qu'avec ces amis européens qui allaient arriver au pouvoir ou qui étaient déjà au pouvoir, ils allaient pouvoir en fait bénéficier d'une solidarité, y compris économique. Et puis en même temps, les partis socialistes européens vont, on va dire, quitter le terrain de la gauche pour se rapprocher plutôt du terrain du centre. Le phénomène qui va se passer, c'est que les partis affiliés à l'International en Amérique latine vont tous un jour ou l'autre arriver au gouvernement. Et ils vont gouverner à la manière néolibérale. De sorte qu'ils vont complètement se disqualifier et que vont arriver, dans les années, fin des années 90, un certain nombre de nouveaux leaders. Alors, pas besoin de les citer, enfin si, je vais les citer quand même. Hugo Chavez, Rafael Correa en Équateur, Evo Morales, Lula au Brésil. Avec un phénomène évidemment très intéressant, c'est qu'ils déplacent les partis latino-américains liés à l'International socialiste. Et de ce fait, ils deviennent les adversaires de ces partis. Et évidemment, la logique, elle est claire, c'est que les copains de mes copains sont mes copains, et les ennemis de mes copains sont mes ennemis. Alors, ça donne quoi? Je vais prendre un exemple très concret. Le Venezuela. Venezuela, le parti principal qui est lié à l'International socialiste, c'est Action démocratique. Président Carlos Andrés Pérez. Janvier 89, Carlos Andrés Pérez est élu à la présidence. Felipe González fait un discours formidable à Caracas en disant « Si les mesures que va prendre ce gouvernement sont les mesures qui vont suivre, ce pays a un avenir formidable. » Sauf que trois mois après, Carlos Andrés Pérez s'aligne sur le Fonds monétaire international, impose des mesures absolument terribles à la population, qui a une révolte populaire et que ça fait 3000 morts. Et l'International socialiste se tait. Lorsque Carlos Andrés Pérez va être destitué pour corruption en 93, l'International socialiste lui envoie un message d'amitié, hein, de compréhension et d'amitié. Évidemment, dans ces conditions, il n'est pas difficile de comprendre que le lieutenant-colonel Hugo Chavez, qui en 1992 a tenté un coup d'État contre cette démocratie injuste et corrompue, comme il le dit, va devenir l'ennemi des socialistes européens. Et c'est cette logique qu'on va retrouver tout au long des années 2000, 2010, 2011, 2012 maintenant. C'est-à-dire que tous ces nouveaux leaders latino-américains qui sont arrivés au pouvoir sont des gens qui ne sont pas considérés comme légitimes par la grande famille socialiste. Bon. Alors il n'y en a qu'un qui a été courtisé, qui est courtisé par les socialistes européens, c'est Lula. Bon. Et donc on a un décalage total. Et quand on pose le problème ici, vu de France, à l'intérieur du Parti socialiste, parce que tous les socialistes français ne sont pas indifférents à ce qui se passe en Amérique latine, on vous explique que finalement, la compréhension des membres du Parti socialiste français, je parle de la hiérarchie des dirigeants, c'est du niveau, je cite, c'est pas moi qui le dis, le monde ou libération. C'est-à-dire qu'en fait, on n'y connaît strictement rien. Ceux qui vont là-bas.
Parce que dans le monde et dans Libération, on n'y connaît rien.
Ça, moi, c'est nos comment, mais simplement.
Non, bien sûr, aucun commentaire de la part de Maurice.
Non, mais c'est vrai. En gros, on peut le dire. C'est un désaccord politique. C'est pas une attaque méchante sur l'Amérique latine. Le monde et Libération sont, de mon point de vue.
Oui.
Maurice Lemoine, en dessous de tout. C'est-à-dire que là encore, je veux dire, une fois qu'on a résumé l'affaire à du populisme, et puis du populisme, et puis du populisme, on n'a strictement rien expliqué. Bon. Un dernier exemple, l'ambassade de Bolivie, Alfonso Dorado, qui a été conseiller pendant longtemps, il vous explique que oui, on a rencontré de manière anecdotique Ségolène Royal ou Martine Aubry. Mais ils ne se sont jamais intéressés à nous, ils ne nous ont jamais posé de questions sur l'expérience qui était menée chez nous, sur l'ALBA, l'Alliance Bolivarienne des Peuples de notre Amérique. En fait, ils s'en fichent complètement. La seule peut-être présence qu'on a pu voir, c'est Ségolène Royal, lorsqu'elle était en campagne, qui a été s'afficher auprès de Cristina de Kirchner ou de Michelle Bachelet, bon, en tant que femme présidente, ou future femme présidente. Et en même temps, quand on regarde, et là encore, avec le respect qu'on peut avoir pour la personne de Michelle Bachelet, et la distance critique par rapport à sa politique, c'est que le principal résultat de la gestion de Michelle Bachelet, ça a été de permettre le retour de la droite au Chili.
Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar. Cuando llega el carnaval, se acaban todas las penas y yo me voy a bailar solito con mi morena.
Compañero, yo estoy aquí a las 7 de la mañana, compañero, por una convención primero. Soy padre de dos hijos. Sé claramente que esta lucha de este gobierno no es para mí. Tampoco los días que me quedan de lucha y sacrificio. Es para mis hijos. Es para mis hijos.
Aquí lo que defendemos es el proceso de poder constitucional. Estamos con ese fascismo. Estamos con el gobierno popular.
Porque creemos que es una lucha justa la que se está dando en este momento. Venimos a defender la posición de todos los trabajadores a través de estos movimientos.
Allende, Allende, el pueblo que defiende.
Alors, on va continuer quand même avec ce que nous disait Maurice Lemoine. Je reste sur l'international socialiste, Georges Papandréou, Laurent Gbagbo, Ben Ali et Hosni Moubarak, qui faisait partie de l'international socialiste. Ça nous permet de passer à un autre sujet, en Égypte, cette fois à Suez, où les salafistes ont remporté les élections à hauteur de 51% quand même, ce qui n'est pas rien pour les frayeurs que nous avons, une partie de l'opinion, au moins ici, une partie de la presse, face à cette révolution égyptienne, avec le succès des frères musulmans, et là, en l'occurrence, à Suez, des salafistes. Alors, François Pradal, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur cette situation et nous dire qui sont ces épouvantables salafistes?
Déjà, ils nous font beaucoup plus peur ici que là-bas. C'est-à-dire, ce qui fait le plus peur aux révolutionnaires égyptiens, c'est l'armée, parce que l'armée, elle tue. Les salafistes, pour l'instant, ils provoquent. Ils provoquent sur la question des femmes, sur la question de la séparation entre pouvoir politique et pouvoir religieux, puisque la politique et la religion, c'est la même chose. Mais il faut bien comprendre que même après ces élections, ils n'ont aucun pouvoir. Les Égyptiens ont voté pour un parlement qui, pour l'instant, n'a aucun pouvoir législatif, doit nommer une commission qui va décider d'une constitution qui va être soumise à référendum, qui n'est qu'un jeu pour l'armée, pour rester en place et continuer un processus électoral qui va permettre aux Égyptiens d'attendre, et de peut-être essayer d'oublier un peu la révolution. Donc les plus révolutionnaires des Égyptiens, les socialistes révolutionnaires, ils me disent « mais on s'en fiche des islamistes. Ce qui nous importe, c'est de faire tomber l'armée d'abord. Après, on verra ». Et les salafistes sont sûrement beaucoup moins armés que ne l'est l'armée égyptienne, qui continue exactement comme avant la dictature du régime Moubarak. C'est encore plus de 6000 prisonniers politiques en prison. Il y en a quelques-uns qui ont été relâchés récemment avec la libération d'Alaa Abdel Fattah. C'est des femmes qui sont traînées dans la rue et qui sont écrasées au sens propre par des militaires qui leur sautent dessus. C'est des libertés qui sont absolument pas acquises. C'est la presse qui connaît aussi également des pressions, des caméras de télévision qui sont balayées de la place Tahrir dès qu'il y a des émeutes. Donc le problème pour l'instant principal, c'est comment se débarrasser de la dictature et comment se débarrasser du conseil militaire qui prolonge non seulement la dictature, mais également tous les avantages de l'armée, tous les avantages économiques.
Les avantages économiques, parce que c'est effectivement les militaires qui tiennent l'économie
égyptienne. C'est plus de 30% de l'économie, et c'est une économie...
Y compris le tourisme.
Hein. Y compris le tourisme, y compris toutes les côtes, etc., tous les compounds pour étrangers. Et donc, d'une certaine façon, moi je me suis même demandé à un moment donné si on ne pouvait pas parler de scalafiste. Si on pouvait pas dire que l'armée, dans une certaine mesure, avait intérêt à faire monter les salafistes, et je sais pas comment, donc j'aurais pas encore les preuves, mais j'ai beaucoup de témoignages dans ce sens-là, de façon d'une part à diviser les islamistes, les frères musulmans, qui pour le moment sont dans une attitude où ils disent il faut que cesse le régime militaire, et d'autre part, puissent se servir des salafistes comme un épouvantail qui pourra permettre de dire à l'Occident, aux États-Unis et à l'Europe, regardez, finalement, vous préférez travailler avec nous, l'armée, ou avec ces épouvantables islamistes qui ne cessent de faire des provocations, de vouloir voiler les statues à Alexandrie et veulent renvoyer les femmes à la maison. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les choses sont vraiment paradoxales. C'est-à-dire que la ville qui est la plus révolutionnaire d'Égypte, Suez, où ils se sont battus pendant 3 jours, ils ont renversé la police en 3 jours, ils ont brûlé les commissariats, ils se sont libérés par eux-mêmes, la ville qui est la plus ouvrière, la ville où il y a eu le plus de grèves depuis le 8 février. Suez est en grève permanente, et ça passe de tous les secteurs, hein, des chauffeurs de microbus aux ouvriers du canal. Il y a même certains qui veulent créer des syndicats pour les femmes de chambre et les vendeurs ambulants. Donc il y a une vraie ébullition et une vraie réappropriation par les ouvriers de leurs droits. Cette ville qui est la plus ouvrière est aussi celle qui vote la plus islamiste. Et c'est cette contradiction apparente qui paraît difficile. Mais quand on arrive à Suez, on se rend compte que les jeunes salafistes, ils sont dans la rue. Comme sur la place Tahrir, les jeunes frères musulmans, ils sont dans la rue. Et ils suivent pas leur parti puisque les salafistes n'étaient pas dans la révolution. Après, l'autre question du succès des salafistes, c'est qu'ils tiennent les mosquées. Et que les mosquées, c'est aussi par là que se fait la campagne. Ils tiennent beaucoup de télévision également, et ça en a moins parlé. Ils changent d'idée comme de chemise, hein, parce qu'ils sont contre toutes les aspirations culturelles, la musique, la danse, etc. Mais on voit même des chanteurs salafistes et des clips salafistes maintenant qui apparaissent. Donc il y a un opportunisme politique. Et puis une raison de leur succès, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent. L'argent qui leur vient du Golfe et d'Arabie Saoudite. Ils sont franchement très effrayants aussi pour beaucoup de parties de la population qui se disent « Mais où va l'Égypte ?» etc. Ils veulent nous mettre un niqab sur la tête, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont aucun pouvoir pour l'instant. Et que même avec 25% des électeurs qui se sont portés sur eux, ils n'ont pas un poids au Parlement qui leur permet de faire chavirer. Et je crois que d'une certaine façon, la montée du salafisme, elle s'explique aussi par le recentrage relatif des frères musulmans. Les frères musulmans, leur numéro 2 est copte. Ils ont voulu tenir un discours où ils rassembleraient toute la société de l'extrême gauche à l'extrême droite, où ils essaient de donner des garanties comme quoi ils veulent gouverner avec les libéraux, avec toutes les minorités possibles. Et donc, plus les frères musulmans se ressentent, plus leur slogan « l'islam est la solution » a été récupéré par les salafistes. Et en plus, il faut savoir que les salafistes ont réussi à conquérir beaucoup les classes populaires par une sorte de discours radical, de discours identitaire, sur lesquels les autres essayaient de mettre un peu plus la pédale douce.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تحاجون في إبراهيم وما أنزلت إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي الذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم.
On continue avec le diplo de ce mois de janvier. Sylvie Laurent donne un papier dans le diplo de ce mois-ci sur la country music, c'est-à-dire sur cette musique qui est considérée par nous un peu comme de la musique de plouc. Hein. C'est la musique des Blancs, c'est la musique des Rednecks un peu. Hein. Et pas que, on a vu que parfois aussi, il y a un certain nombre de chanteurs, d'interprètes qui donnent des connotations sociales, voire même revendicatrices hein, dans certains aspects. Mais enfin, ça s'oppose quand même au blues, ça s'oppose au jazz, ça s'oppose à toute une musique et toute une expression de musique populaire. Or là, vous êtes allé plus profondément dans cette musique et dans ce qu'elle représente aujourd'hui.
Oui, en fait, tout est parti du fait que Barack Obama, de façon très étrange, a organisé une sorte de grande célébration pour la country music à la Maison Blanche, et qu'à cette occasion, il a appelé la Maison Blanche la Maison du Peuple. Comme si, finalement, il y avait une forme d'équivalence entre la country music et le peuple, et en cela, il est vrai qu'il a décliné une idée très présente aux États-Unis, une idée très ambivalente. Comme vous le disiez, c'est à la fois une musique très, très méprisée, parce que c'est considéré comme étant la musique des ruraux, du sud, des bouseux avec leurs chapeaux et leurs santiags, qui s'accrochent aux drapeaux, aux armes à feu, et qui fondamentalement sont le contraire d'une pensée moderne, éduquée, d'une certaine façon Barack Obama l'incarne. Et en même temps, c'est un style musical qui en est venu à incarner la véritable américanité. Si américanité a un sens, comme francité peut avoir un sens, c'est dans la country music que ça s'incarne. Comme si des entrailles de l'Amérique étaient nés un genre endémique qui était la country music. Et évidemment, on va beaucoup en parler dans les mois qui suivent avec les primaires républicaines. La question, c'est qui obtient le vote de ce vrai américain du peuple qui, bien sûr, est blanc, bien sûr, est un travailleur et qui est censé emporter l'élection. Donc, dans ce contexte-là, la country music est un élément rhétorique important. Donc Barack Obama a essayé de faire un clin d'œil à l'électorat populaire blanc des États-Unis en leur disant « Vous voyez, moi aussi, j'aime cette musique populaire que vous aimez beaucoup. » Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de stéréotypes autour de ce genre musical, le plus important étant que c'est une musique patriotique à la marge du nationalisme, c'est-à-dire qu'envers et contre tout, les chanteurs de country music chantent la défense de l'Amérique. Et ça a été illustré, cette caricature a été illustrée en 2003 lorsque un groupe de chanteuses de country music très très populaire qui s'appelle les Dixie Chicks, donc littéralement les petites poulettes du sud, qui étaient très populaires, qui passaient beaucoup beaucoup sur les radios, et on écoute beaucoup de country music aux États-Unis, on vend des millions de disques de country music aux États-Unis. Lors d'un concert en Grande-Bretagne, elles ont dit « Voilà, nous sommes du Texas et on doit bien vous dire que nous avons honte que notre président soit aussi du Texas », parce qu'on était au moment où la guerre commençait à développer toutes sortes de tensions et de débats aux États-Unis. Et du jour au lendemain, à partir du moment où Natalie Maine, la chanteuse de ce groupe, a fait cette déclaration critique vis-à-vis de George Bush, le groupe a été entièrement boycotté de toutes les chaînes de radio, et ça a été, pendant quelques années, une traversée du désert pour ce groupe de musique. Et donc, le stéréotype de les néoconservateurs et la country music, c'est la même chose, s'est renforcé. Ce que j'essaye de montrer dans le papier, c'est qu'en réalité, à ce moment précis, il s'est agi de la part des stations de radio de répondre aux pressions amicales exercées par des groupes d'influence venant du Texas qui voulaient sciemment casser la carrière de ces chanteuses, que s'il est vrai que d'autres chanteurs, depuis en particulier le 11 septembre, ont beaucoup joué sur cette verve du nationalisme, du chanteur de country qui dit que l'Amérique est grande, l'Amérique est forte et qu'elle doit s'imposer partout dans le monde, qu'en réalité tout ça c'est une opération marketing savamment orchestrée par les maisons de production de country music, et que ça mériterait à tout le moins que l'on revienne aux origines de la country music. Donc les origines de la country music, ça vient des Appalaches, ça vient de cette première catastrophe écologique et la découverte du charbon dans les Appalaches, et du fait que les mineurs vivent des migrations, des déracinements, et qu'ils ont le sentiment que ce progrès qui les avale détruit leur communauté, détruit leurs origines, leur famille, et ce qui les définit en tant que classe populaire. Voilà. Et donc petit à petit, l'idée selon laquelle une certaine forme de pratique religieuse, d'attachement au pays, de valeurs masculines, parce que la country music c'est beaucoup quelque chose qui exalte la masculinité, la conscience de classe aussi beaucoup, le travail, l'oppression de la machine, tous ces grands thèmes sont exprimés à travers de la country music, avec en permanence une tension entre ceux qui finalement défendent un style musical qui exprimerait des valeurs de l'Amérique, mais qui sont des valeurs y compris de solidarité, de reconnaissance des minorités raciales, de droits des femmes, on trouve tout ça dans la country music, et en même temps des tensions qui sont liées en grande partie à l'influence du marketing, qui a compris très vite que si on vendait la country music comme champ de la réaction, alors ça permettait aussi de toucher un public qui n'est en réalité pas le public rural auquel on pourrait penser, très réactionnaire, d'évangéliste. En réalité, les gens qui écoutent de la country music, c'est plutôt des urbains qui ont des origines rurales et qui partagent cette espèce de nostalgie pour un monde qui n'est plus. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans ce papier, c'est qu'il est mis en regard avec papier de Thomas Frank, qui est célèbre.
Lui, c'est le Texas.
Alors, lui, c'est le Kansas, qui est célèbre justement pour avoir écrit un livre qui a fait date en 2006, qui s'appelait « What's the matter with Kansas ?», où il se demande pourquoi est-ce que son État, qui est l'État le plus pauvre des États-Unis, qui a toujours voté démocrate depuis la nuit des temps, s'est mis à voter républicain. Et donc il prend, le Kansas devient une métaphore pour cette Amérique du Heartland, celle qui écoute de la country music, et il se pose la question de pourquoi est-ce que des gens qui sont ouvriers, déclassés, qui sont des classes populaires américaines, se sont mises contre leur intérêt de classe, à voter pour des républicains qui leur réduisent leurs droits syndicaux, leurs droits du travail, et qui visiblement fait une politique contraire à leur intérêt. Et ce qu'il apporte comme explication dans son bouquin, qui est assez intéressante et qui rejoint la country music, c'est qu'en fait, les républicains se sont placés sur le terrain de la culture. C'est-à-dire que ce qu'ils ont réussi à expliquer à la population blanche américaine, c'est attention, les démocrates menacent ce qui vous définit, et ce qui vous définit, ce n'est pas votre condition sociale, ce qui vous définit, c'est une culture propre. Ce qui vous définit, vous, gens du peuple blanc, c'est votre attachement à la religion, votre hostilité au mariage homosexuel, votre hostilité à la dépénalisation de la drogue, votre attachement à la peine de mort et aux armes à feu. C'est-à-dire les persuader que leur culture était hyper conservatrice et que eux seuls pouvaient la défendre contre des démocrates urbains, élitistes, froids, qui n'étaient que dans la crédibilité et le progrès social. Et d'une certaine façon, ce que dit Thomas Frank, c'est finalement, le peuple blanc s'est dit que pour défendre sa culture, faute de pouvoir défendre son usine ou son petit commerce, il voterait républicain, même si le prix à payer ensuite, c'est une politique sociale qui se fait contre leur intérêt. Donc ça devient un argument rhétorique. Si vous écoutez de la country music, vous êtes un vrai Américain. C'est ce qu'a dit Nixon dans les années 70 quand il a dit « la country music rend l'Amérique meilleure ». C'est-à-dire, c'est un argument complet, car la réalité, c'est que il y a parmi les chanteurs de country music autant de gens de gauche que de gens de droite, et il y a depuis une quinzaine d'années, y compris au sein des plus grands groupes et chez les plus grands interprètes de country music, une dénonciation de la guerre, des inégalités sociales et des oppressions multiples. Donc on est en réalité bien loin du stéréotype.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. And the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain.
Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
On est toujours avec le numéro du Monde diplomatique du mois de janvier. Et là, il y a la page 17, ne la manquez pas. Le titre de... C'est un article assez court, un papier assez court, qui s'appelle « À 100 contre 1 » et qui est une petite merveille. Et vous avez tout ce qui a été dit sur Pierre Bourdieu, il y a une dizaine d'années à peu près, par des gens éminents tels que Edwige Plenel, Alain Finkielkraut, Laurent Geoffrin, Françoise Giroud, Jean-Marc Sylvestre, notre Jean-Marc Sylvestre à nous, qui disait, il a fondé beaucoup de ses analyses sur des archaïsmes et des erreurs historiques. Bernard-Henri Lévy a dit, Bourdieu, ce que les années 60 nous lègue de plus éculé. Finkielkraut accuse Bourdieu de critique totalitaire. Edwige Plenel condamne sa, je cite, vision schématique de l'univers médiatique, etc., etc. C'est un vrai bonheur pour Philippe Solers. Bourdieu, c'est le stalinien typique, etc. Et alors, l'auteur de l'article, qui est Pierre Rimbert, se demande si tous ces gens-là vont se glisser dans le cœur d'hommage à Bourdieu, qui effectivement est en train de chanter, 10 ans après, les louanges à la mémoire de Bourdieu. On a avec nous Franck Poupeau, qui a dirigé, coédité, voilà, c'est plus modeste, un gros bouquin sur l'État. C'est des cours du Collège de France pendant 3 ans. Bourdieu a donné ses cours sur le thème de l'État et tout ce qui conduit à l'État et tout ce qui sort de l'État. Mais c'est transcrit de cours parlés. Et donc, ça donne souvent une fluidité, pas toujours, hein, à la lecture. Et puis des digressions par moments, ce qui rend le bouquin... C'est pas facile de le lire d'un seul coup, d'un bout à l'autre, mais par petites tranches, c'est un vrai bonheur.
Oui, c'est un boulot éditorial pour essayer de restituer une image de Bourdieu qui a disparu justement derrière l'avalanche de ses critiques, notamment dans les années 90, qui ont été perpétuées aussi un peu après sa disparition, et qui consistait à faire de Bourdieu une sorte de penseur sectaire avec sa petite secte autour et un système complètement fermé, voilà. Ce qui correspondait vraiment pas à l'image que la plupart des gens qui ont bossé avec lui pouvaient avoir, y compris même des gens qui sont éloignés par la suite. C'est-à-dire, on le voit bien dans le cours, c'est un principe plutôt d'ouverture, j'allais dire presque d'émancipation, quand on va à ces cours-là. Voilà, donc ça restitue une parole vivante, ça hésite, ça tâtonne, c'est ça qui est aussi intéressant. Il s'affronte à un problème qui le poursuivait depuis quand même pas mal d'années. Hein. Il y avait eu Homo Academicus, où il abordait déjà le problème du champ du pouvoir. Il y avait eu La noblesse d'État, hein, qui était paru en pleine commémoration de la Révolution française, qui cumulait 20, 25 ans de travaux sur les élites, hein, de la République. Et donc ça, c'était une tentative encore de penser un peu plus que l'avaient fait certains autres penseurs très prestigieux comme Marx, Weber ou Norbert Elias, et d'essayer de construire un principe d'intelligibilité de ce que c'est que ce pouvoir d'État, cette pensée d'État qui nous envahit et qui définit un peu nos cadres de pensée. Voilà, c'est un peu aussi la perspective de cette édition-là, de restituer à la fois la parole vivante et la réalité d'un travail de recherche, d'enquête. En même temps, il parle de ses enquêtes au même moment sur le logement, voilà, et qui l'amène à se rendre compte au même moment aussi, il fait l'enquête sur la misère du monde, tous les bouleversements qui affectent l'état social français. Hein, et c'est un peu avant 95, et il voit déjà ça à l'œuvre, hein, la lutte des ministères dépensiers contre les ministères financiers, la lutte de la main droite et de la main gauche de l'État, bon, ça c'est des thèmes connus. Voilà, on voit tout ça émerger petit à petit, et c'est une sorte à la fois d'immersion dans un univers d'érudition assez impressionnant et en même temps de réflexion sur l'actualité la plus brûlante. Qu'est-ce que c'est que l'État et l'État en France aujourd'hui? Voilà. Et qu'est-ce qui est en train de se passer à cet État qui a eu autant de mal à se construire, qui pour partie est oppresseur et qui en même temps est aussi un État social? Et il y a cette contradiction sans arrêt qu'il essaie de penser.
Et là pour dans ce numéro du Diplo, vous avez choisi, enfin le Diplo a choisi un extrait sur l'opinion publique, la façon dont se construit l'opinion publique.
Ouais, alors c'est un extrait qui est bien choisi parce qu'il renvoie un petit peu à un des principes de l'analyse de Bourdieu, qui est de dire que l'État, c'est un ensemble de catégories de pensées hein, qui sont au fond de nous et que l'État construit et qu'il va élaborer tout en élaborant des institutions en parallèle. À savoir, c'est la construction d'un ensemble de principes de légitimité, de légitimation des pouvoirs en place. Et c'est pas seulement un instrument ou d'oppression ou un instrument de consensus. Voilà. Et donc, c'est toute la théorie qu'il élabore de l'État comme monopole de la violence physique et symbolique légitime. On parlait tout à l'heure de l'américanité. Il y a un très très beau passage qui est vers la page 228. Hein, il reprend les analyses de l'Englishness. Hein, c'est quoi? C'est dire que l'État, c'est du conformisme non seulement moral, c'est du conformisme logique. C'est cet ensemble de catégories de pensées qui sont tellement naturelles qu'elles vont de soi et qui font qu'on se sent appartenir à des groupes, on se sent doté d'identité, on se sent doté d'un caractère national, quasiment spontanément, sans que ça apparaisse, quelque chose de construit alors que ça l'est. C'est vraiment une élaboration qui est à la frontière du travail d'enquête empirique, de réflexion sur son enquête, par exemple sur la maison individuelle, et d'un travail d'érudition, de compilation de textes sur l'État, de réflexion sur qu'est-ce que c'est que faire la philosophie de l'État ou faire la théorie de l'État. Les sociologues y compris, hein, parce que les philosophes ont tendance à parler de l'État comme d'un domaine à part, Bourdieu, du plus empirique, du plus basique de ce que fait l'État. Les actes d'institution, qu'est-ce que c'est que faire un formulaire, qu'est-ce que c'est qu'une commission, qu'est-ce que c'est que qu'instituer une orthographe commune dans un pays, etc. Et au même moment, il y a la réforme de l'orthographe qui agite un peu l'univers intellectuel français. Voilà, il y a tout ça qui se joue.
Non, c'était parfait. Tous, le garçon là qui a parlé.
Aimé.
Voilà, puis celui qui a dit à Saïd...
Abdelham.
Voilà, c'était très bien.
Ouais.
Moi, je pense que l'idée d'un mouvement social, c'est parfait, c'est la seule façon. Tant qu'on brûlera des voitures, on enverra des flics. Il faut un mouvement social qui peut brûler des voitures, mais avec un objectif.
Ouais.
Parce qu'ils veulent faire de moi un soldat au compte chèque solvable. Je vous le dis, je suis condamné à l'échec. Parce que le monde qu'ils nous proposent m'indispose. Laissez-moi être un problème pour ceux qui veulent me soumettre. Me soumettre à devenir complice. Me soumettre à devenir servile. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Mais les voitures ne sont que des bibelots de notre consommation qui ne méritent aucun égard dans la révolte de nos chansons. Je ne suis pas déçu en ce système, j'ai jamais espéré pour nos parents tomber dans le panneau. Je ne peux être que navré. Où est mon HH belle, qui fumait du hache. Maintenant le rap prend les allures d'un sermon de DRH. Il nous encourage à faire carrière et gagner des sous. De boire toutes ces conneries fait mal au crâne. Vite faut qu'on dessoule le sang. Déclarer la guerre, il a vaincu nos rhétoriques. Le capital est dans nos têtes et nous fait l'amour torride. Leur système à la con nous prépare à la compète. Ils vous parlent de réussite, je vous parle de conquête. Je n'accepterai jamais les règles qu'ils ont fabriquées. Je n'accepte que les rêves que mon cœur veut abriter.
Bon, Pierre Daume, on continue avec ce numéro du Monde diplomatique de janvier. Et là, vous publiez un grand papier sur le 5 juillet 1962. Dans la base, j'y suis depuis des années et des années. On évoque le 17 octobre 1961. On évoque Sharon. Et régulièrement, les auditeurs disent oui, oui, c'est très bien. Mais vous n'osez pas parler de juillet 1962. Ça, vous n'en parlerez jamais parce que ce sont des Européens, ce sont des pieds noirs qui ont été massacrés par vos amis algériens. Et c'est vrai qu'on est un peu gêné par cette histoire. C'est quand même une assez sale histoire. Vous revenez dessus, vous êtes allé à Oran et vous apportez quelques lumières, très importantes lumières, parce que le retour des pieds noirs, l'arrivée des pieds noirs en France en 1962, évidemment, ça a été une douleur, une souffrance énorme pour eux, probablement aussi pour nombre d'Algériens, mais ça a été aussi une intégration difficile, un choc extrêmement difficile en France,
qui a des ramifications toujours aujourd'hui dans la société et probablement aussi dans les sensibilités politiques, jusque peut-être jusqu'aux prochaines élections, on peut voir sans doute des ramifications. Mais là, ce que vous faites, c'est un reportage, stylo en main, comme nous, micro en main, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ce 5 juillet 62 à Oran.
Alors, c'est vrai que ce 5 juillet 62 à Oran est un traumatisme pour les pieds noirs, un traumatisme justifié, puisque cette journée-là, l'Algérie entière, les Algériens, le peuple algérien fêtait l'indépendance. Tout s'est magnifiquement passé dans toutes les villes du pays. Il restait encore 400 000 pieds noirs en Algérie ce jour-là. Tout se passe très bien, sauf à Oran, où la fête, en quelques heures, tourne en un massacre des Européens restés à Oran. Or, depuis 50 ans, ce traumatisme continue à hanter les discours pieds noirs et qui instrumentalise cette journée, ce massacre, en disant « Vous voyez, on était obligé de partir parce que les Arabes voulaient nous tuer. Regardez ce qui s'est passé à Oran. » Sauf que, déjà depuis 50 ans, les quelques personnes qui ont travaillé un peu sur cette journée-là se sont contentés d'écouter uniquement les témoignages des pieds noirs. Et personne ou quasiment personne n'a eu l'idée d'aller en Algérie interroger la mémoire algérienne de cette journée-là.
Ce que vous avez fait.
Donc c'est ce que j'ai fait avec mon camarade, le dessinateur Aurel. Et nous sommes allés rencontrer les vieux Oranais pour recueillir leurs témoignages. Et déjà, une chose est absolument certaine, cette journée-là reste une tache honteuse dans la mémoire des Oranais. Parce que, en effet, pendant quelques heures, quelques centaines d'Oranais, d'Algériens, sont partis dans une espèce de folie collective et se sont mis à tenter de tuer n'importe quel...
Pas seulement tenter, ça a été d'une barbarie totale.
Oui, ils ont tenté et ils ont réussi à tuer tous les Français qui passaient sous leurs mains. Alors, les chiffres, aucun, personne ne peut affirmer combien il y en a eu. En France, ont circulé les chiffres les plus farfelus, 500, 1000, 5000. Les historiens les plus sérieux ne vont pas au-dessus de 300 ou 400. Et dans les témoignages que j'ai recueillis, les chiffres vont plutôt vers 150, 200. Au-delà des chiffres, ce que nous avons découvert, Aurel et moi, c'est que, contrairement à cette idée que tous les Algériens, tous les Oranais auraient voulu assassiner tous les Français, en fait, une bonne partie des Oranais ont tenté d'arrêter les massacres. Ils ont rassemblé tous les pieds noirs qu'ils trouvaient dans la rue, ils les ont mis, enfermés, entre guillemets, dans des écoles, dans des commissariats, en attendant que la fureur populaire se calme, pour ensuite, en fin d'après-midi, les libérer. Sauf que ce que je viens de raconter est raconté complètement à l'opposé depuis 50 ans par les pieds noirs, qui disent, oui, ils nous ont rassemblés dans les écoles, dans les commissariats, mais c'était pour nous assassiner, c'était pour nous exterminer. Et là, il est sûr qu'il faut absolument revoir cet épisode-là de l'histoire.
Oui. Alors, il faut rappeler évidemment que tout ça, ça vient au terme de 132 années d'une colonisation particulièrement barbare, que ça vient au terme d'une guerre qui dure depuis 1954 et depuis 1962, on pratique en Algérie, la France pratique en Algérie, une torture quotidienne quasi industrielle. Les échanges ont été extrêmement brutaux
et violent. Et il faut dire aussi que à Oran, dans les mois qui ont précédé, l'OAS domine la ville et fait des quantités d'attentats contre les Algériens. Donc, on est dans une situation, ça n'enlève évidemment rien à l'horreur de ces meurtres et à la honte sur ces meurtriers, sur ces imbéciles, mais il y a cette circonstance qu'il faut bien comprendre. L'OAS tue.
Absolument. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce massacre, cette chose horrible, ne s'est passé qu'à Oran et ne pouvait se passer qu'à Oran. Et je reprends dans ce reportage les souvenirs horribles des Algériens, des Oranais, qui ont subi pendant plusieurs mois des assassinats quotidiens de l'OAS. Les Algériens étaient parqués dans certains quartiers, entourés de barbelés, et il y a des snipers de l'OAS qui étaient juste à l'extérieur des quartiers et qui passaient leur journée à faire du tir au lapin. Et donc, on ne peut pas comprendre ces quelques heures de folie du 5 juillet 62 à Oran sans reprendre toute cette histoire de la pression et des meurtres par l'OAS sur la population algérienne d'Oran.
Je me demande si les auditeurs qui, depuis des années, nous reprochent de ne pas avoir suffisamment parlé de Oran 5 juillet 62 vont être satisfaits. Merci Pierre Dôme.
Merci à vous.
Merci à tous. Merci Pierre Dôme, Franck Poupeau, Sylvie Laurent, François Pradal et Maurice Lemoine. C'était notre émission mensuelle avec le monde diplomatique sur l'État, cours au Collège de France 1989-1992 de Pierre Bourdieu et une édition établie par Patrick Champagne, Rémi Lenoir, Franck Poupeau, Marie-Christine Rivière. C'est au Seuil, dans la collection Raison d'Alger. Et surtout, ne loupez pas le bouquin de Pierre Dôme qui vient de sortir chez Actes Sud. Ni valise, ni cercueil. Les pieds noirs restés en Algérie, ce sera un thème pour les mois qui viennent. Et puis, La dette ou la vie, le bouquin qu'on a soutenu, l'ouvrage collectif du CADTM, eh bien, il est épuisé à cause de nous. Mais, bonne nouvelle, il est réimprimé aux éditions ADN. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis, ainsi que sur le site là-bas.org, là-bas.org, et puis aussi sur notre page Facebook, vous pouvez nous retrouver. Grégory Wallon et Michel Thomas étaient à la technique aujourd'hui. Bertrand Chometon et Franck Adhérer ont réalisé cette émission avec Antoine Chao. Tout ce petit monde est assisté de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch. Quant à lui, attend vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et puis, je le répète, record historique d'audience de la base. J'y suis de la tranche de 15 heures avec 610 000 auditeurs désormais. Bienvenue à tous. Réclame quand même.
France Inter, partenaire du festival Premier Plan d'Angers. Du 20 au 29 janvier, venez découvrir 100 jeunes cinéastes européens. Revoir les films de Jean-Luc Godard, d'Alan Clark et de Georges Semprin. Et rencontrer Michel Piccoli, Régine Chopineau, Jeanne Moreau, Jacques Gamblin, Christophe Honoré, Macha Méry et Anne Wiazemski. Le festival Premier Plan d'Angers, du 20 au 29 janvier. Renseignements sur franceinter.fr.
Psst. 16h sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la base. Si j'y suis, les infos, Laetitia Gaillet. Salut!
Les secours italiens annoncent cet après-midi avoir découvert 5 nouveaux corps dans l'épave du Costa Concordia, ce qui porte à 11 le nombre de victimes du naufrage du paquebot vendredi dernier au large de la Toscane. On ne connaît pas la nationalité des nouvelles victimes. On sait seulement que parmi les 29 personnes portées disparues figurent 4 Français. Par ailleurs, le parquet italien a réclamé cet après-midi le maintien en détention du commandant du paquebot. Le procureur de Nanterre, Philippe Courroy, vient d'être mis en examen cet après-midi dans le cadre de l'affaire d'espionnage de journalistes du Monde en marge de l'affaire Bettencourt. Dans un communiqué, Philippe Courroy dit contester vigoureusement sur la forme et sur le fond cette mise en examen. À la veille du sommet social, Nicolas Sarkozy a réitéré aujourd'hui sa volonté de réformer le financement de la protection sociale. C'était lors d'un déplacement dans l'Ariège pour ses vœux à la France rurale. Il faut, dit-il, baisser le poids des charges sociales sur les effectifs de l'agriculture et de l'industrie française. Sinon, la France se videra de son sang parce qu'on ne pourra plus produire en France. Selon l'étude du Centre d'analyse stratégique publiée aujourd'hui, 783 000 emplois seront créés dans le secteur marchand d'ici 2016. Les services à la personne, les secteurs technologiques et haut de gamme sont parmi les secteurs porteurs. À l'inverse, les secteurs en perte, notamment l'industrie, perdraient 161 000 emplois d'ici 2016. Selon le CAS, élu d'experts donc au service de François Fillon, l'ampleur de ces chiffres traduit un mouvement de transformation structurelle du tissu productif français. Si la réglementation existante est appliquée sans modification, alors le prix de l'électricité en France pourrait grimper de 30% d'ici 2016. C'est ce que dit aujourd'hui le président de la CRE, la Commission de Régulation de l'Énergie. Et à propos de l'énergie et de EDF, Standard & Poor's, l'agence de notation, annonce cet après-midi qu'elle dégrade d'un cran la note d'EDF, mais aussi de RTE, ainsi que de la SNCF. Le préfet enlevé hier soir à la frontière libyenne devrait être libéré dans la journée. C'est ce qu'affirme cet après-midi un sénateur algérien. Des Libyens devraient le ramener au poste frontalier de Debded. En France, Michel Nérel, ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise, a été entendu aujourd'hui par les juges d'instruction parisiens. C'est la deuxième fois depuis sa mise en examen pour notamment corruption, trafic d'influence, de stupéfiants, détournement de biens et violation du secret professionnel. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé aujourd'hui les fouilles intégrales systématiques des détenus à l'issue des parloirs à la prison d'Ormingen dans le Bas-Rhin. La justice estime que cette mesure a été décidée en l'absence de circonstances le justifiant. L'État devra en outre verser 1 000 euros à l'Observatoire international des prisons qui avait porté l'affaire devant le tribunal. Les producteurs de lait de brebis des Pyrénées-Atlantiques ont mené aujourd'hui une nouvelle action. 70 d'entre eux ont déversé des milliers de litres de lait devant l'aéroport de Biarritz. Ils protestent contre les industriels qu'ils accusent de boycotter leur coopérative. Un dernier résultat de tennis à l'Open d'Australie à Melbourne. Serena Williams, l'américaine, s'est qualifiée cet après-midi pour le second tour de ce premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Vous écoutez France Inter, 16h03. Et c'est tout de suite à vous, Frédéric Lodéon, pour Carrefour
bonjour,
de Lodéon.
Bonjour, bonjour. Laetitia.
Carrefour de Lodéon. Bonjour à tous. On le sait, un enregistrement en studio, avec montage à la clé, en général c'est plus parfait qu'un concert pris sur le vif. Mais ça vaut la peine quelquefois d'entendre des événements, même si on peut noter quelques petites imperfections, petits décalages, fausses notes, etc., etc. Voici par exemple quelque chose qui remonte du fond de l'histoire, pas si longtemps que ça quand même, enfin 1963. C'était au Festival de Vienne et Pierre Monteux, âgé de 88 ans, légendaire chef d'orchestre, dirigeait Tchaïkovski au piano John Ogden avec le London Symphony Orchestra. Voici un peu de l'Allegro avec feu, Confuoco du premier concerto pour piano de Tchaïkovski. un pianiste ailé, et zélé à la fois, d'une très grande virtuosité, Pierre Monteux, peut-être un peu plus rigide derrière, un superbe orchestre, enfin bon, un témoignage intéressant tout de même, publié chez Vanguard Classics, premier concerto pour piano de Tchaïkovski, Allegro con fuoco, donc London Symphony avec Pierre Monteux et John Ogden au piano. Et voici là maintenant un enregistrement en studio, donc léché, parfait, revu, réentendu. Il s'agit de l'Orchestre Philharmonique de Séoul, qui depuis 60 ans en Corée du Sud, bien sûr, offre aux mélomanes beaucoup de partitions très différentes et fait vivre la musique. Et Myung-Hoon Chung, qui est le chef de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, il est évidemment aussi tout à fait demandé dans son propre pays, la Corée du Sud, et un disque vient de paraître avec Ma Mère Loi, et puis La Valse de Maurice Ravel, et puis La Mer de Claude Debussy. Alors voici un extrait de La Mer, justement, le dialogue du vent et de la mer, et on va entendre cet élan formidable. On dit que ce moment-là, cet apogée, ce climax, comme disent les anglo-saxons, ce serait une déclaration d'amour de Debussy envers sa compagne Emma Bardac. Dialogue du vent et de la mer de Claude Debussy, tiré de ce magnifique ensemble, presque une symphonie, La Mer, justement, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Séoul, dirigé par Myung-Hoon Chung, un très beau disque qui vient de paraître. La nature a beaucoup inspiré les musiciens en général, les littérateurs aussi, donc la mer, les ruisseaux, les fleuves, les bois, les forêts, et même les insectes. Et oui, par exemple, Franz Schubert nous a concocté une petite abeille bien bourdonnante. Thank you. L'abbaye de Franz Schubert, interprété au violon par Renaud Capuçon et au piano par Jérôme Ducrot. Bien, voici un joli spectacle que je vais vous conseiller, et c'est pour les jeunes et puis ceux qui sont plus grands et qui ont gardé une âme très jeune. Et ça commence demain, c'est le bal des abeilles justement, c'est la compagnie Dang Dang, ils ont pris ce nom-là parce que ça sonne et que ça réveille éventuellement. Et on nous dit dans le prospectus que les abeilles disparaissent en moyenne de 30% chaque année dans de nombreuses régions du monde. Il y a le frelon asiatique, vous savez, qui est redoutable, les maladies, et puis le mélange de pesticides. Et puis sans les abeilles, comme on le sait, ben, il y aurait plus de fleurs, parce que la pollinisation ne se ferait pas, ou moins bien en tout cas, plus de fruits, et puis sans les fruits, il n'y aurait plus d'hommes du tout, ça on le sait. Alors donc, un parcours initiatique dans la nature avec l'abeille au centre, et c'est joyeux, c'est ludique, nous dit-on, un très joli spectacle, je peux le supposer. Et donc c'est au théâtre de Nesle, c'est 8 rue de Nesle, à Paris 6e, N-E-S-L-E-S, et ça commence demain, et c'est le mercredi et le samedi à 14h, mercredi et samedi à 14h, vous avez juste le temps de rentrer pour écouter Carrefour de l'Odéon. On parle samedi évidemment, mais le mercredi en tout cas. Et réservation, parce que comme c'est vraiment une jolie compagnie, ça va être très sympa, je suis sûr. Et les enfants, ils pourront trouver beaucoup de joie. Réservation, je donne le numéro 06 66 35 12 29, 06 66 35 12 29, le bal des abeilles, la compagnie Dang Dang, jusqu'au 31 mars, le mercredi et le samedi à 14h. Ah ben voilà, on va rester dans les bestioles avec...